Beauté, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Alliance Plus, bienvenue pour cette émission. Nous reprenons cette semaine encore le colloque qui a eu lieu le lundi 4 décembre dernier au cinéma Le Sémaphore, le colloque de l'APA, Association Protestante d'Assistance. La semaine dernière, vous avez pu écouter Jean-Christophe Muller, et cette semaine, je vous propose d'écouter Olivier Abel autour du thème suivant qu'il avait intitulé « Sans parole, pas de nourriture qui suffise ». Mais je vous rappelle que ce colloque avait duré toute la journée et le titre était le titre du programme de cette journée, c'était « Vers une alimentation durable pour tous, pour toutes », avec un grand point d'interrogation. Ce programme était très riche puisque nous avions eu le matin Christian Polge, président de l'Association protestante d'assistance, en ouverture et puis à la fin en fermeture. Nous avions eu l'occasion d'entendre Francine Cabane, professeure d'histoire-géographie à la retraite, qui nous a brossé quelque chose, une histoire des pauvres à travers les siècles, qu'elle avait intitulée « À la table des pauvres ». Et puis l'après-midi, en fin de matinée plutôt, nous avions entendu Pauline Scherrer, qui est une sociologue et qui nous avait mené une réflexion très intéressante et très fournie qui s'intitulait « Vers une démocratie alimentaire ». Et puis nous avons eu l'occasion d'entendre deux témoignages d'agriculteurs. Et l'après-midi, Marie-Hercelle nous a dit quelques petits mots d'introduction pour la projection du documentaire « La part des autres » que nous avons vu, et puis jusqu'à donc cette intervention, pour terminer, de Olivier Abel, philosophe que vous connaissez bien. Donc je vais vous proposer d'écouter maintenant cette intervention qui s'intitulait « Sans parole, pas de nourriture qui suffise ». À la suite de cette intervention, vous entendrez un morceau de musique et puis nous nous retrouverons pour nous dire au revoir. Je vous souhaite donc une bonne écoute maintenant.
Bon, vous savez que manger, on l'a entendu là encore tout à l'heure, manger ça fait partie de l'être. Ce que l'on mange devient ce que l'on est soi-même. Hein. Donc du coup, forcément, ça touche aussi à des questions importantes d'immunité. C'est-à-dire, en fait, c'est le rapport entre soi et l'autre. C'était le titre du film, hein, le rapport à l'autre. Donc il y a un échange, il y a un partage, il y a du don, du contre-don, bon, de la prise et de la contre-prise. Parce que justement, j'ai bien aimé aussi à la fin celui qui disait ben, « Est-ce que vous acceptez un peu de glyphosate dans votre urine ?» Bon, oui, parce que c'est pas si simple que ça, justement. On est pris. Mais c'est vrai que manger, de proche en proche, c'est forcément être en lien avec des humains très lointains, qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, bien sûr, avec tout un... avec tous ceux qui cultivent, avec tous ceux qui transforment, tous ceux qui élaborent, tous ceux qui distribuent, et puis finalement avec la nature entière, et donc ça a à voir avec la biodiversité. C'est un immense partage. Il y a dans le manger, il y a tout. C'est tellement central. Bon, c'est ce qui a été beaucoup dit, mais je veux reprendre ça presque comme une sorte d'éblouissement en disant, mais je pense que nous ne mesurons pas, nous ne savons pas ce que nous faisons quand nous mangeons, de toute façon. Il faut penser à ça. Mais en même temps, du même coup, il y a de la culture. C'est-à-dire, en fait, il y a des choses que nous ne mangerons pas. Je pense que c'est important. Qu'il y ait des différences entre ce que nous mangeons et ce que nous ne mangeons pas, c'est la base de la culture. On ne va pas tout prendre. Bon, on est très omnivores. Je pense que les chrétiens sont très particulièrement très omnivores. Bon. Mais justement, c'est important qu'il y ait aussi des choses... Sur quoi on ne touche pas, mais je vais y revenir parce que ça, c'est des dimensions d'anthropologie aussi qui sont importantes. Il faut aussi les accepter. Et je pense toujours à cette phrase de Ricoeur qui disait « Pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi ». En fait, voilà, il y a un travail de qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas. Tout ça, c'est pour dire que la question du choix est quand même une question importante. Alors, ça peut aussi devenir une question complètement malade, parce que on voit des enfants qui ne mangent de rien, qui peu à peu n'acceptent finalement, on pourrait dire qu'on ne mange que des frites, et qu'on ne boit que de l'oasis. J'ai bien aimé sur la table à la fin qu'au milieu des trucs très bio, il y avait la petite bouteille d'oasis. J'aime bien ce genre de détails, parce que ça montre bien la réalité dans laquelle on est. Ça, c'est tout à fait ça. Bon. Oui, je pense que le thème qui avait été choisi par l'équipe, là, le thème de l'insécurité alimentaire, je pense que c'est très important parce que ça nous met tout de suite au cœur du sujet qui est le sujet des corps vulnérables. Les corps vulnérables, alors, bien sûr, les corps, la vulnérabilité, c'est aussi celle des familles, des rythmes, de ce que j'appelle les cohabitudes, des formes de vie, des cultures. Bon, on va voir les questions de préparer, de prendre les repas ensemble, tout ça. Mais les corps, c'est des bons. L'intervenant de ce matin qui disait qu'on ne peut pas séparer le social et l'écologique, je crois que c'est très important de voir le niveau de radicalité dans lequel la question écologique, ce n'est pas une question luxueuse à garder pour des riches ou pour ceux qui ont les moyens. Évidemment, c'est une question absolument vitale. C'est-à-dire, en fait, c'est justement. Nous sommes, c'est le lieu de la fragilité. Et d'ailleurs, la question de l'agriculture aussi, c'est bien la question de la fin de la biodiversité. Ça touche, là, quand je pense, moi, au pare-brise dans mon enfance, l'état des pare-brise, même après un voyage de 100 km ou de 200 km, et l'état de nos pare-brise aujourd'hui, c'est quand même, il se passe quelque chose, quand même. Quoi. Bon, les champs d'oiseaux, etc., les vers de terre dans la terre, etc. Oui, il se passe quand même quelque chose, évidemment. Et forcément, ça nous touche. Ça nous touche dans le rapport qu'il y a entre notre forme de vie, la pluralité des formes de vie, les formes de vie animales, végétales, la diversité, bon, qui est, à mon avis, vitale pour les humains. Mais ça touche aussi, du coup, le sens que nous avons de la pluralité des formes de culture. C'est pour ça que je voudrais insister dans mon propos sur le rapport entre... entre le manger et la dimension de la culture. Je vais commencer à m'embrouiller dans mes notes. Voilà. Et puis, alors peut-être aussi, je parlais d'insécurité, il y a des peurs. Il y a des angoisses alimentaires, des angoisses d'empoisonnement, de maladies, les mutations génétiques, les manipulations génétiques... les étiquettes, du coup la surveillance, les marques, les emballages, bon, bref, ce que je disais tout à l'heure, nous ne savons pas ce que nous mangeons, et je pense que c'est très important, enfin, je pense qu'aujourd'hui notre monde est dans une grande demande de confiance. Nous manquons de confiance. Donc, c'est évident que les produits locaux, identifiables, pas emballés, etc., on a le sentiment qu'on va pouvoir avoir confiance. Mais je pense que ça touche l'ensemble de nos circuits de distribution, c'est plus vaste. On ne peut pas se résoudre à avoir uniquement, voilà, ça c'est ma petite sphère dans laquelle j'ai confiance, c'est mes proches, et le reste, je n'ai pas confiance, j'ai peur de tout. Je pense que ce serait absolument désastreux. C'est aussi politiquement désastreux. Il y a des enjeux politiques, à mon avis, énormes. Le monde, il est méchant. De toute façon, là-bas, on ne sait pas ce qu'ils font, etc. Nous, on va rester entre nous, on va manger que entre nous des choses que nous, on a fait nous-mêmes. Je pense que c'est quelque chose qui me semble inquiétant, qui me semble dangereux. Attendez, où est-ce que j'en suis? j'ai essayé de mettre des petits numéros. Alors, une autre forme, un autre lieu dans lequel la nourriture est devenue quelque chose d'angoissant, c'est, moi je suis rentré dans le thème il y a déjà une trentaine d'années par un grand colloque qu'on avait organisé avec des médecins autour du thème de l'obésité. Et donc, il y a la question de la malbouffe, mais on voit bien qu'il y a un changement global de régime. Pas seulement alimentaire, de régime global. C'est-à-dire, en fait, on est plus dans une société d'hyper-pénurie, mais on est dans une société d'abondance qui, paradoxalement, crée des... On vient de le voir, qui génère... C'est une sorte de pénurie qui est produite par une société de surproduction et de sur... Vous voyez, c'est ça qu'il y a des choses là qui sont tout à fait... qui, je pense, méritent des réflexions économiques C'est compliqué, c'est certainement compliqué. C'est pas simpliste, hein, certainement, bon, d'aborder ça. Bien sûr, c'est le capitalisme, mais la sortie de ce capitalisme-là n'est pas si facile que ça. Donc je dirais, voilà, on est dans un changement global de régime, société d'abondance, donc il y a moins... nos corps ont été faits pendant des millénaires, des millions d'années pour stocker dans les périodes où on trouvait la nourriture, pour tenir pendant les périodes où on ne tenait pas de nourriture. dans une époque où on n'a plus besoin de stocker, alors que nos corps ne sont pas faits pour ça. C'est quelque chose de tout nouveau, hein. C'est quelque chose de, c'est une situation, je pense, dans l'évolutionnisme, on va dire. C'est une hypothèse évolutionniste, hein, que je fais. Et donc, voilà, il y a ça, il y a ce point-là. Ensuite, il y a évidemment des phénomènes d'addiction, c'est-à-dire parce que je pense que les habitudes, nous sous-estimons l'importance, philosophiquement même, moralement, l'importance des habitudes. Et je pense que voilà, il faut veiller à nos habitudes et à nos habitudes collectives aussi. Nous avons on a parlé beaucoup dans le film aussi, des habitudes collectives. C'est pas si simple que ça de sortir d'énormes habitudes collectives. Bon, alors je pense qu'il y a des addictions, hein, dans lesquelles, et voilà. Et puis en même temps, on est une société hyper mécanisée, donc il y a de moins en moins d'efforts, il y a de moins en moins de marche. Là aussi, c'est des questions d'habitude, hein, c'est cet ensemble-là, hein, qu'il faut désigner. Alors on a beaucoup dit, et je viens de l'évoquer, que manger, c'était pas seulement une question de physiologique, utile, ou bon. Il y a une dimension mythique, une dimension imaginaire. Se nourrir, ça touche à l'image de soi. Et l'alimentation a beaucoup à voir avec l'imaginaire. Et certainement, l'industrialisation de la nourriture a été avec une certaine standardisation, avec un certain nombre de conformismes, allait aussi avec des nouvelles formes de publicité, des nouvelles normes d'alimentation et des hiérarchies des bonnes alimentations, des hiérarchies des goûts. Hein, quels sont les bons goûts ce matin, Francine nous a montré l'histoire du goût, d'une certaine manière. Il y a des éléments d'histoire du goût et Pierre Bourdieu avait travaillé sur le goût, sur la distinction. Le goût, c'est aussi une manière de se démarquer les uns des autres. Donc il y a à la fois des énormes forces de conformisme, de standardisation, et des forces de hiérarchisation, de distinction, de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, etc. Avec, bien sûr, depuis déjà, maintenant, c'est déjà très ancien, la mise en avant du naturel. Le naturel, c'est vraiment quelque chose que autrefois on ne pensait pas du tout à mettre en avant le naturel. On était dedans, donc on ne pensait pas à mettre. Ça fait 40, 50 ans que dans les publicités, partout, il faut que ce soit du naturel. Tout ce qui peut évoquer le naturel est mis en avant. Et donc là, il y a un biais imaginaire qui me semble peut-être terrible, si vous voulez. Je reviens peut-être sur la question centrale pour moi, c'est que, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il sans parole, il n'y a pas de nourriture qui suffise, c'est que on est dans l'oral, on est aussi au stade oral au sens de Freud, ça touche la bouche, ça touche les plaisirs de bouche, ça touche les... Et c'est le plaisir de manger est lié au plaisir d'écouter la parole, et il est pris dans la parole dès le petit enfant qui suce le sein de sa mère, etc. Je pense que nous avons besoin, tout au long de notre vie, d'intercaler finement le langage et la nourriture. Lorsque Jésus dit « L'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu », je ne sais pas ce qu'il savait les dire dans sa tête, mais je pense qu'en tout cas, l'idée que le pain et la parole doivent aller ensemble. Kant insiste beaucoup sur le fait que le plaisir, il n'y a pas de plaisir solitaire. Le plaisir, c'est le plaisir de partager. Le plaisir, il est lié à la communicabilité. Il est lié à le plaisir, il se partage. Il n'y a pas de plaisir vraiment solitaire. Il y avait une des vieilles dames qui le disait magnifiquement. Et donc, pour ouvrir le goût, pour varier le goût, ben justement, raconter la nourriture, ça fait partie de cette dimension du plaisir partagé qui se parle. Et je vais y revenir tout à l'heure en parlant de la culture, je vais terminer par ça, mais je voulais faire un petit détour politique que j'ai introduit là en écoutant toute la journée. Je me disais, mais c'est un thème beaucoup plus politique encore que ce que... Quand on parle de tous ceux qui sont précarisés, qui ont cette précarité alimentaire, et quand on dit, c'était l'intervenant de ce matin qui disait qu'il est impossible de socialiser, du coup il est impossible de socialiser autour de l'alimentation, et que du coup on se retire de la société parce que justement il n'y a pas cette socialisation par l'alimentation partagée, etc. Je crois que c'est un point extrêmement politique et que d'abord ça veut dire que l'assistance, la solidarité, c'est pas quelque chose qui se fait simplement, qui se donne, mais qui se fait avec. Hein, c'est le mot qui a été donné. Je crois que c'est très important justement parce que on peut toujours parler on peut parler des pauvres, mais parler avec, c'est autre chose. On peut parler les uns des autres, mais parler avec. La parole, c'est la conversation. C'est pas le langage qui nomme. C'est la conversation dans laquelle chacun accepte d'être dans un point de vue, dans un corps, dans un point de vue étroit, et qu'il y en a d'autres qui ont d'autres points de vue. Et du coup, on rentre dedans, on est avec, on est ensemble. Voilà. Ça change complètement la chose. Et quand je disais la parole est au cœur de l'espace politique, ce que disait Aristote, hein, d'une certaine manière, tout à fait, de l'espace démocratique, ça veut bien dire que si tout le monde... Le droit à avoir de la nourriture, c'est aussi le droit de parler. Tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit d'interroger. J'ai envie de dire, tout le monde a le droit de demander. Le droit de demander, c'est une forme élémentaire de parole. Et d'une certaine manière, je redouterais d'avoir affaire à une société dans laquelle une énorme production d'alimentation ferait taire tout le monde en disant « c'est bon, vous êtes nourri, vous êtes un cheptel bien nourri, bien soigné, vous n'avez plus besoin de rien ». Mais non, moi j'ai besoin de demander quand même. Même quelque chose, voilà, des choses que je n'ai voilà, à l'autre, etc. Bon. Et donc voilà, j'ai été très frappé par la phrase « il faut que ce soit pour tout le monde ». Il y a aussi le mot qui est sorti, je ne sais pas où, de l'alimentation décente. L'idée d'une alimentation décente. Je crois que la décence, moi j'ai travaillé sur l'humiliation récemment, c'est justement quelque chose qui ne soit... Il y a de la décence, une société décente, c'est une société qui n'humilie pas. Et bien, je pense qu'il y a des manières de se nourrir qui sont humiliantes. Et donc une alimentation décente, ça serait une alimentation non humiliante. Je ne sais pas ce que je veux dire par là, hein. Vous l'interprétez chacun comme vous voulez, mais... c'est aussi d'ailleurs la notion d'indépendance alimentaire. On voit bien que ce qui a été dit ce matin, qu'actuellement nous ne produisons que 30% de nos fruits et légumes, c'est une question politique évidemment majeure. Alors en même temps, par rapport à l'idée de sécurité sociale alimentaire, l'idée que tout délégué à l'État, ça déresponsabilise. C'est des vieilles questions qu'on s'est posées depuis tellement longtemps, dans les églises, en philosophie politique. Et c'est là que c'est certain que l'hypothèse de Charles Gide, dont tu parlais, Francine, ce matin, de coopérative de consommation, parce qu'on parle beaucoup de coopératives de production, mais les coopératives de consommation, c'est une idée très forte. Parce que justement, il y a cette démocratie horizontale, pas seulement toujours cette démocratie républicaine, verticale, qui est notre cœur de métier en France, on sait bien faire. Mais alors la démocratie horizontale, participative, coopérative, l'idée de coopérative, c'est quand même quelque chose de très important. Et justement, ça peut prendre jusqu'à la forme de ce petit repas qu'on voyait à la fin du film et qui me semble très, très parlant. Je reprends maintenant les notes que je voulais... Je termine par quelques notes que j'avais préparées auparavant. Je dirais qu'il y a une sorte de paradoxe des omnivores que nous sommes. C'est que nous avons un besoin, nous les humains, on n'est pas comme les animaux qui ne mangent qu'une seule chose, qui sont spécialisés. Nous avons besoin de diversité. Et alors, c'est un risque. L'omnivore, il prend un risque, parce qu'il prend le risque de s'empoisonner. Parce que justement, il est capable de goûter quelque chose. Rappelez-vous, Ève avec Adam. Il est capable de goûter quelque chose qui n'était pas prévu pour lui. Hein, vous voyez, c'est vrai. Et donc, peut-être qu'il va s'empoisonner, peut-être qu'il va mourir. Donc tout nouvel aliment peut être un danger potentiel. Donc, il y a une anxiété, etc. Et donc, du coup, il peut y avoir un rapport... On peut avoir un rapport, un biais traditionnel par rapport à la nourriture. C'est-à-dire faut manger toujours les mêmes choses, et les bonnes choses, c'était les bonnes choses traditionnelles. Et donc, on appelle ça la néophobie, si vous voulez. Bon. Mais de l'autre côté, il existe aussi une néophilie, c'est-à-dire des gens qui ont envie d'essayer encore des nouvelles choses, des goûteurs, des gens qui explorent, qui essayent, qui adaptent, qui diversifient, qui essayent de nouvelles recettes, qui goûtent, qui mélangent des recettes de pays complètement différents, etc. Là, c'est la néophilie. Et il me semble que ce qui se passe là au niveau de la nourriture, et donc que nous faisons tous, hein, bon, nous sommes tous en train de tisser entre notre néophobie et notre néophilie constante, eh bien c'est toute la culture humaine. C'est le cœur de la culture humaine de jouer entre la tradition et les bricolages de nouvelles recettes ou les nouveaux goûts. Et je pense que ça c'est important. Il y a une sorte de... Il nous faut penser, l'humanité doit prendre les virages de la transition alimentaire avec les grandes roues de sa capacité, de sa vieille capacité culturelle de créativité, de vivacité, à la fois d'intégrer le plus archaïque et le plus créatif. On a besoin des deux, si je peux dire. Ça, c'était une première chose que je voulais dire. Je reviendrai très bêtement sur le fait que nos manières de manger sont liées à nos manières de vivre, d'être ensemble, de cohabiter. Je pense que manger est au cœur de l'habitat. Manger, ça suppose quand même qu'il y ait aussi quelque chose pour abri. Enfin, ça peut être une clairière, un jour d'été, bien sûr. Enfin, c'est bien quand même qu'il y ait... Et pour qu'on puisse inviter, c'est quelque chose qui a été beaucoup dit, recevoir pour manger, enfin, c'était très sensible dans certaines scènes du film qu'on vient de voir. Et donc, nos manières de manger sont liées à nos manières de vivre, d'habiter, de cohabiter, d'être ensemble. Donc c'est vraiment au cœur de nos cultures. Nos cultures sont comme des langues, mais j'ai envie de dire, nos cuisines sont comme des langues, comme des chaque fois sont porteuses d'humanité. Il y a des humanités, il n'y a pas une seule manière. C'est ça aussi le problème avec l'industrie. La conception industrielle, c'est que c'est quelque chose qui écrase c'est comme s'il n'y avait plus qu'une seule humanité. C'est la civilisation technique, bien sûr, elle est universelle, elle s'impose à tous, et il y a des besoins universels, bien sûr. Il faut que tout le monde puisse manger, oui, mais nous sommes des êtres interprétants, nous interprétons notre condition, et donc nous différons les uns des autres. Nous avons besoin d'être différents les uns des autres. Nous avons besoin de cette différence, c'est pas un luxe. Ça fait partie, je dirais, de la condition humaine d'avoir cette diversité. Et donc, c'est important d'ouvrir cela. Et donc, je terminerai en disant que nos cultures ne sont pas portées par des... On a une conception hyper pareille. On a aussi, de la même manière qu'on a une conception à la fois industrialisée et consumériste de l'alimentation, dans laquelle on va au supermarché, on a une conception de la culture. Qui est très consumériste, qui est très individuel. Or, je pense que les cultures sont portées par des communautés, sont portées par des milieux. Et à force de détruire les milieux, c'est-à-dire les formes de vie, les formes de culture, si je peux dire, eh bien, nous détruisons les cultures, nous détruisons ce que j'appelais tout à l'heure, à l'instant, les traditions. Nous détruisons en même temps les traditions et aussi les capacités créatives, parce que les capacités créatives, elles n'étaient possibles que parce qu'elles étaient portées par des traditions, par des milieux. Et donc, nous perdons tout d'un coup.
Thank you.
Nous voilà de retour sur Radio Alliance Plus 103.2 et vous pouvez nous écouter en DAB+, et puis aller aussi sur notre site pour retrouver toutes nos émissions en podcast. Vous venez d'entendre une musique d'Astor Piazzolla à l'accordéon. Mais avant cela, vous avez entendu Olivier Abel pour l'intervention qu'il avait donnée pendant le colloque de l'APA qui s'était tenu au Sémaphore le 4 décembre dernier. Notre émission se termine maintenant. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ce sera une émission consacrée à Noël, bien évidemment. À tous et à toutes, à bientôt. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.
Écoutez-nous en direct sur radioalliance+.fr.